France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Pologne ce soir.
Par rapport à mes valeurs, c'est un bon choix. Je suis catholique et, par exemple, je suis opposée à l'avortement. Et puis, je suis contre les arrivées de réfugiés dans notre pays. Cela peut amener des problèmes. Mais c'est très triste, je trouve, que la Pologne soit si divisée.
Voilà, cette Polonaise, donc, après la victoire de Karol Nawrocki, cette électrice polonaise. Bonsoir, Rosa Thun.
Bonsoir.
Avec nous depuis Varsovie, merci beaucoup. Vous avez été députée européenne chez Renew. Aujourd'hui, depuis Varsovie, votre parti s'appelle Polska 2050. Nous rejoindrons Fabien Cazot à Bruxelles dans un instant. Mais c'est aussi, peut-être surtout d'ailleurs, Rosa Thun, votre casquette d'ancienne députée européenne qui nous intéresse, parce que la Pologne était en train de devenir un allié important en Europe et on verra ce que cela devient. Avant cela, quand même, un mot sur ce score 50,89% pour le nationaliste, donc Karol Nawrocki. C'est plus qu'un pays coupé en deux, votre Pologne. C'est un pays qui est sur une ligne de démarcation, on a presque envie de dire ingouvernable, au fond, tant il se coupe en son milieu, Rosa Thun. Qu'est-ce que vous devez en conclure ?
Bon, c'est pas tellement dramatique. Je ne suis pas ravie avec les résultats des élections hier, mais c'est quand même le président en Pologne, il n'a pas les mêmes pouvoirs que le président en France, par exemple. Mm-hmm. Et le gouvernement reste en pouvoir et il a une claire majorité parlementaire. Donc, on ne peut pas dire que le pays n'est pas gouvernementable, comme vous avez dit. Ça, c'est une chose. Bien sûr que c'est dommage que la société soit tellement divisée. Il faut comprendre que nous sommes ici à la frontière avec la guerre. Mm-hmm. Et la guerre se passe déjà. Nous avons une guerre en Pologne dans les médias sociaux. Elle est menée de l'extérieur, c'est-à-dire Poutine fait une propagande énorme et c'est extrêmement dangereux ce qui se passe aussi dans les têtes des gens, surtout des jeunes qui passent beaucoup de temps dans l'Internet. Et ils font des choix qui sont, je crains, même de leur point de vue, assez irresponsables.
On l'a entendu, Rosa Thun, notre électrice à l'instant, qui parle à la fois de ses valeurs, des sujets sociétaux comme l'avortement par exemple. Elle parle aussi de la guerre et elle parle notamment des réfugiés. Moi, je suis assez curieuse de savoir quelle était la part des réfugiés ukrainiens dans ce vote, finalement, en Pologne.
Je ne sais pas si les réfugiés ukrainiens, qui sont bien plus d'un million en Pologne, s'ils partaient d'un jour à l'autre, je crois que notre économie souffrait beaucoup parce qu'ils travaillent, ils payent des impôts et on a besoin d'eux. Donc ce n'est vraiment pas un problème. La Pologne est gagnante avec les Ukrainiens qui sont ici. Quand on parle des réfugiés ou des migrants, c'est plutôt, normalement, il y a beaucoup de Polonais qui ont peur ou qui craignent les gens des pays, d'autres pays que nos pays voisins, normalement. Mais il y a très, très peu. Donc c'est vraiment une chose plutôt imaginaire ou une affaire ou un sujet utilisé par les populistes pour rendre peur aux gens, mais nous n'avons pas de problème.
Ce qui est intéressant quand on regarde les résultats, quand on les regarde un petit peu à la loupe, Rosa Thun, c'est que alors c'est toujours un peu simple de parler de Pologne des villes et Pologne des campagnes, mais enfin néanmoins, quand on regarde les résultats, il y a quelque chose de clair en la matière, avec en plus peut-être un supplément, et vous allez nous dire comment vous l'identifiez. Est-ce que c'est aussi une onde de choc qui vient du trumpisme? Il y a une Pologne jeune, il y a une Pologne masculine surtout, qui a voté pour ce président-là.
C'est vrai aussi. Et il y a beaucoup de sondages qui montrent des résultats divers. Aussi, bien sûr, je suis désolée de le dire, mais les gens moins éduqués votent pour ce président. Les gens mieux éduqués votent pour le président démocratique, libéral et européen, M. Trzaskowski. Les jeunes votaient pour ce président, justement. Il faut vraiment se concentrer dans beaucoup de pays dans l'Union européenne sur l'éducation. Éducation et culture, c'est vraiment un sujet, des sujets principaux auxquels on paye beaucoup trop peu d'attention dans beaucoup de nos pays. Mais C'est vrai que c'est très dangereux que les jeunes, surtout, ont la tendance de voter d'une telle façon, quoi.
Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il a raté quand même, Donald Tusk, pour qu'on ne lui dise pas... Il a été élu, il faut le rappeler, ça a été ric-rac aussi. Hein, le parti Droit et Justice n'avait absolument pas disparu du paysage polonais. Mais Tusk arrive en 2023. Qu'est-ce qui fait que le pays ne veut pas envoyer un message disant, bon, donnons-lui le vrai pouvoir, donc Premier ministre et aussi un président de la République qui serait de la même couleur, pour voir ce que ça peut donner avec lui. Comment ça se fait qu'on ne lui donne pas ce blanc-seing-là, en fait, à Donald Tusk?
Je crois que les gens sont impatients. La coalition au gouvernement maintenant, avec le Premier ministre Donald Tusk, elle travaille depuis un an et demi. Ce n'est pas très longtemps après toutes les destructions que Droit et Justice avec Kaczyński ont fait. Surtout avec un président qui avait jusqu'à maintenant, qui a toujours encore, qui bloquait les nouveaux droits. Et nous avons besoin des changements dans le système de la justice et dans beaucoup d'autres choses. Donc Donald Tusk, bien sûr, et le gouvernement de maintenant, la coalition, ne pouvaient pas impliquer tout à la fois. Ça ne va pas très vite. Les gens sont impatients et voudraient avoir les changements tout de suite. Plus, il y a bien sûr, ce que j'ai mentionné, une énorme propagande populiste dans les médias sociaux, et c'est la source principale d'information, surtout pour les jeunes. Et il faudra bien s'occuper de tous ces fake news et hate et la propagande populiste que nous avons, parce que c'est plus dangereux qu'on n'a jamais pensé.
Je disais en vous présentant, Rosa Thun, que vous aviez été députée européenne jusqu'à récemment, et on voit bien le fossé qu'il y a entre ces deux Pologne que vous nous décrivez, mais ce qu'on voit aussi, c'est un même fossé au fond, à l'intérieur de l'Europe. On voit deux visions, pas seulement de la conduite de la Pologne, mais aussi deux visions de la démocratie. Jusqu'à quel point diriez-vous que c'est aussi un vote qui résonne en Europe que ce vote-là, et que c'est aussi ça le message qu'ont voulu envoyer les Polonais?
Je ne sais pas si c'est de chemin, ou comment vous dites, deux images de démocratie. C'est démocratie et pas démocratie, malheureusement, ce qui se passe dans les pays. Cette droite extrême, c'est parti populiste, ses représentants populistes, ce n'est pas la démocratie vraiment. Donc moi je dirais que ce qui est très dangereux, c'est que c'est une division entre les gens qui veulent la démocratie et une Europe forte et unie, et les gens qui ne comprennent pas ça, qui sont nationalistes et qui trouvent qu'ils vont être plus forts quand ils vont vivre dans ces nations enfermées, avec la population toute blanche et chrétienne. Et c'est un clivage très, très dangereux, vraiment.
Restez avec nous, Rosa Thun, justement. Bonsoir, Fabien Cazot.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Bruxelles, Fabien, et c'est bien ça, en fait, qu'on est en train d'expliquer là, qui a donné à Bruxelles le sentiment d'une douche froide, parce que le score est un échec des forces centristes européennes, un échec de la vision macroniste, un échec de la vision de Frédéric Merz. Est-ce qu'il y a une crainte de devenir minoritaire même dans cette Europe-là? Est-ce que c'est ce qu'on entend, la petite musique de Bruxelles en ce moment?
À ce stade, oui, ça reste un scénario cauchemar du camp pro-européen. C'est sûr qu'élection après élection, on voit monter cette vague des droites nationalistes. Leur champion en Europe, c'est le Hongrois Viktor Orban. Lui, il assume totalement de dire que quand il vient à Bruxelles, c'est pour défendre les intérêts de la Hongrie. Il a d'ailleurs applaudi tôt ce matin à la fantastique victoire, je cite, de Karol Nawrocki, élu comme lui sur un programme totalement nationaliste. La Pologne d'abord, c'était son thème numéro un slogan qui rappelle celui de Donald Trump aux États-Unis. Comme tous ses homologues populistes européens, il dit admirer le président américain, ce qui irrite beaucoup ici à Bruxelles, où les pro-européens ont l'impression de se faire contourner par des pays qui ont été beaucoup aidés, il faut le rappeler, par l'Union européenne, et qui maintenant préfèrent directement traiter avec Washington.
Est-ce que, Fabien, le groupe, je ne sais pas si on peut appeler ça de manière formelle, mais que formait désormais la Pologne avec la France, avec aussi l'Allemagne, notamment sur la guerre en Ukraine, est-ce que ce groupe-là est mort-né, en fait ?
Moi, je dirais pas forcément. D'abord, parce que Karol Nawrocki succède à un président, Duda, qui était du même parti que lui, et ça n'a pas empêché la Pologne de jouer les premiers rôles dans le soutien européen à l'Ukraine, d'être un pilier de la coalition des volontaires aux côtés, notamment des Français et des Britanniques. Il ne faut jamais oublier la méfiance historique qu'entretiennent les Polonais vis-à-vis du grand voisin russe. Et puis, il y a tout de même de lourdes tendances de fond qui sont engagées depuis plusieurs années et qui rendent la Pologne absolument centrale dans l'effort de réarmement européen. Elle s'y est lancée dès 2014, après l'annexion de la Crimée. C'est aujourd'hui la troisième armée de l'Union européenne en nombre de militaires, après la France et l'Allemagne. Depuis trois ans, le budget de la défense est passé de 2,2 à 4,2% de la richesse nationale, c'est le record d'Europe.
Rapidement, s'il vous plaît, Fabien, le risque d'un gros coup de barre à droite, pour l'instant, à nouveau, qui a été entamé d'ailleurs par la Pologne et notamment par la campagne Tusk, d'ailleurs, parce qu'il fallait coller à l'électorat. Je pense à l'immigration notamment. Est-ce que tout cela va s'accentuer? Est-ce que c'est un peu ça qu'on sent aussi à Bruxelles?
Oui, c'est la crainte, l'immigration et aussi l'autre inquiétude majeure, le respect de l'état de droit. On y faisait allusion. Personne n'a oublié à Bruxelles les années de conflit avec le PiS polonais sur notamment des réformes judiciaires engagées en Pologne. Et puis, il y a toutes les questions sociétales, le droit à l'avortement, le PiS ultra-catholique est farouchement contre, et bien sûr, l'égalité des droits des personnes LGBT.
Merci beaucoup, Fabien Cazot. Rosa Thun, vous le disiez tout à l'heure au début de cette conversation, le président polonais n'a pas les mêmes pouvoirs que le président français. Et c'est vrai, en même temps, il a un veto qui est un veto redoutable, notamment sur le budget, notamment sur les tribunaux, notamment sur la magistrature. Donc la crainte qu'il ne se passe plus rien en Pologne de ce point de vue-là, est-ce qu'elle existe vraiment de cette campagne brutale? Est-ce qu'on va en venir effectivement à une politique brutale encore plus?
On va voir, maintenant la campagne électorale est terminée, donc on va voir si le ton va changer ou non, parce qu'il y a beaucoup de chansons qu'on chante pendant les élections électorales et après il y a la réalité. Il faut collaborer, coopérer avec les partis au pouvoir, avec Donald Tusk, qui quand même c'est lui qui représente la Pologne au Conseil européen. C'est pas le président du côté polonais et ils doivent coopérer. Et nous avons une guerre juste à côté de nous et nous sommes très conscients comment c'est dangereux et comment nous avons besoin d'une Europe forte tous pour ne pas perdre tous ensemble cette guerre parce qu'elle va pas se terminer en Ukraine.
Ce que dit Karol Nawrocki rapidement, Rosa Thun, c'est on va mettre la pression pour provoquer des élections anticipées. Vous y croyez à ça ou pas?
À vrai dire, je ne crois pas. C'est-à-dire, il peut dire beaucoup de choses. Il n'était jamais dans la politique. J'ai un peu l'impression qu'il va dire ce qu'on va lui être dit. C'est-à-dire, je ne peux pas m'imaginer qu'il va développer une ligne vraiment politique responsable parce qu'il n'a aucune expérience. Donc, on va être de son côté, ça va être pisse ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, et on va voir. Mais ne soyons pas trop pessimistes. Mais bien sûr, le résultat montre dans laquelle direction, dans beaucoup de pays, la société va. Et il faut vraiment voir quel effort il faut faire pour expliquer aux gens ce qui est vraiment important, nécessaire et quel effort il faut faire ensemble.
On suit en tout cas de très près ce pays qui est le vôtre, la Pologne. Rosa Thun, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde en Israël et en Palestine avec le seul news magazine dont la rédaction est des deux bords. Il s'appelle Plus 972 comme l'indicatif téléphonique d'Israël. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufraîche sous les radars.
En Croatie, des médecins traquent les erreurs de l'un des docteurs les plus célèbres de la télé.
Le Monde à 18h50 et Louise Baudet, bonsoir Louise.
Bonsoir, l'Amérique lui dit qu'elle est de retour et qu'elle est là pour y rester, mais l'Indo-Pacifique est-il vraiment rassuré? Pas si sûr.
Allez, Cyril Sauvageau avec la BO du Monde. Bonsoir Cyril.
Bonsoir, on ira en Afrique du Sud où Donald Trump et Elon Musk relancent le débat sur la chanson anti-apartheid Kill the Boer. S'agit-il d'un appel au meurtre des fermiers blancs ou d'un hymne contre l'oppression? La question divise toujours les Sud-Africains.
Allez, ce sera juste avant 19h. À tout de suite les amis, le tour de la planète commence à peine. Il passe par la playlist d'Inter comme chaque soir avec Arad Kilo, Nbendia, le mélange de la chanteuse malienne Mamani Keita et du slammer originaire de Boston, Mike Ladd.
Hey, Mamani, you all right?
Hey, Mike, comédie.
Bendia. Arad Kilo, on est à l'aise.
Bendia.
Easy like a Sunday moon. Fair girls, red pompadour. When I chill offshore. I sleep eight despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace, suits out my pores. I put in work before the score.
Reportage d'un jour dans le monde ce soir est entre la Palestine et Israël avec cette question, comment raconter Gaza alors que l'enclave reste fermée aux reporters étrangers, vous le savez, et que le nombre de journalistes palestiniens tués dépasse désormais les 200, un chiffre du syndicat des journalistes palestiniens. Un média détonne dans ce paysage médiatique israélien et veut parler de Gaza notamment, c'est le site d'information plus 972 comme l'indicatif téléphonique d'Israël, donc plus 972, c'est une vingtaine de journalistes israéliens et palestiniens unis pour raconter au mieux l'actualité de cette terre qu'ils ont en partage, du journalisme « from the river to the sea » comme ils aiment à le dire, et l'intérêt des lecteurs est vraiment là, le site est passé de 20 000 lecteurs avant la guerre à 120 000 visiteurs par mois, avec des pics parfois autour d'un million sur certaines enquêtes. Alors à quoi ressemble le quotidien de cette rédaction mixte? Est-ce que c'est un laboratoire? Est-ce que c'est une utopie? Nous allons donc en Cisjordanie et aussi à Tel Aviv, et le reste c'est Amira Swilem qui raconte.
Comme tous les samedis à Tel Aviv, les manifestants affluent sur l'avenue Begin pour demander la libération des otages. Depuis quelques semaines, un autre rassemblement grossit de samedi en samedi. Des photos d'enfants gazaouis tués par leur armée à la main, des Israéliens demandent la fin de la guerre. Dans la foule, caché derrière son objectif, Oren Ziv, journaliste israélien.
La première semaine de la guerre, juste après le 7 octobre, le chef de la police a dit aux manifestants que si certains voulaient manifester en solidarité avec Gaza, ils pouvaient affréter des bus pour les envoyer là-bas. C'est important d'être là parce que cette mobilisation vise à faire en sorte que les Israéliens réalisent ce qu'il se passe à Gaza. Les médias israéliens se censurent depuis le 7 octobre. Ils ne montrent pas ce qu'il s'y passe au quotidien, les souffrances des civils, les destructions, les meurtres.
Oren Ziv travaille pour le site d'information Plus 972. Un clin d'œil à l'indicatif téléphonique d'Israël. Sa vocation est née très tôt.
J'ai grandi pendant la seconde intifada. L'un des premiers événements que j'ai couvert était une attaque suicide dans un bus pendant la seconde intifada. J'avais 17 ans à l'époque. Cela s'est passé pas très loin de chez moi. C'est comme ça que j'ai commencé à couvrir des manifestations contre l'occupation, pour la paix, pour les négociations, contre ce cycle de violence.
L'engagement, c'est l'ADN de Plus 972. Un média à part dans la région. Ses locaux sont basés à Tel Aviv. Roussoun Bicharat en est la rédactrice en chef.
Je suis une citoyenne palestinienne d'Israël. Je suis une descendante de ceux dont les grands-parents et parents n'ont pas été expulsés en 1948.
Autour de la table de la conférence de rédaction, des journalistes travaillant en hébreu et en anglais. Au-delà d'un média, Roussoun Bicharat voit aussi Plus 972 comme un laboratoire de ce à quoi Israël et la Palestine pourraient ressembler à l'avenir.
Le génocide à Gaza et les atrocités du 7 octobre, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu autant de cruauté. On est tous encore traumatisés par ce qui se passe. On ne s'en remet pas encore. Je crois que la seule solution, c'est d'avoir un État. Un État binational où Palestiniens comme Israéliens juifs vivent ensemble.
Le rêve de liberté pour tous semble bien loin pour le moment. À une centaine de kilomètres de là, en Cisjordanie occupée, Bessel Adra est l'un des reporters palestiniens du site d'information.
Là-bas, il y a une colonie. Et par ici aussi.
En mars dernier, il a remporté l'Oscar du meilleur documentaire pour son film « No Other Land ». Il y racontait le quotidien de son village soumis à la violence des colons israéliens. C'est ce que Bessel continue de raconter au quotidien pour le site Plus 972. Parce qu'il travaille avec des Israéliens, le jeune homme a essuyé des critiques de la part de certains de ses compatriotes. Il tente de passer outre ces remarques, qu'il juge déconnectées des réalités et binaires.
Hier, des activistes israéliens ont reçu des coups de la part de colons. Et la police n'a rien fait pour les protéger alors qu'ils sont israéliens. Et ce type de militantisme est important. Aller sur le terrain, raconter, dénoncer le colonialisme et montrer la réalité, c'est important.
De Tel Aviv au village de Cisjordanie occupé, les membres de Plus 972 continuent de penser que le cycle de la violence et de l'injustice peut être rompu. Eux feront tout pour.
Amira Swilem pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord au Nigeria que nous sommes, Kevin, dans une ville dévastée.
Mokwa, près de 300 000 habitants dans le centre du pays, ravagés par les inondations en fin de semaine dernière. Les habitants racontent qu'ils n'ont jamais vu une telle catastrophe. Le dernier bilan fait état de plus de 200 morts et environ 500 personnes sont toujours portées disparues. Par endroits, il ne reste plus rien. Des débris partout, des maisons entières comme déracinées. Les murs en argile n'ont pas résisté à la force des eaux. Certains corps ont été retrouvés à plus de 10 km de la ville, emportés par le fleuve Niger. Selon le ministère de l'Agriculture, 1,5 million d'hectares de terre ont été détruits. Alors bien sûr, le réchauffement climatique amplifie ce genre de phénomène au Nigeria comme ailleurs, mais ce désastre met aussi en lumière les défaillances humaines. Faute de vrais systèmes d'évacuation et de drainage, le niveau de l'eau est monté à vitesse grand V. À cette heure, une poignée d'engins de chantier s'activent pour déblayer et les habitants dénoncent l'abandon des autorités. Quelques soldats et policiers seulement participent aux opérations.
Et nous voici en Algérie avec une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.
Oui, vous l'avez peut-être vu passer hier malgré la violence des images. Un homme se fait filmer un bidon d'essence à la main avant de se rendre aux portes du ministère de la Justice à Alger. Il tente alors de s'immoler. On le voit touché par des flammes. La vidéo s'arrête là. Les autorités ont ensuite fait savoir que les agents de surveillance du bâtiment ont rapidement éteint les flammes avec un extincteur. L'homme est sain et sauf, victime de brûlures légères. Cet homme, il s'appelle Fawzi Zegout, un militant associatif jugé récemment pour avoir lancé sans autorisation une cagnotte pour aider des malades à se soigner. Pour justifier son geste, il dit vouloir attirer l'attention du président algérien Tebboune après qu'au tribunal, le juge l'a menacé, selon lui, arbitrairement de 10 ans de prison. Ce genre de geste en Algérie est très rare. On se souvient qu'en Tunisie voisine, c'est le suicide par immolation d'un jeune commerçant qui avait déclenché la révolution fin 2010. Sometimes
doctors make mistakes. Et puis nous sommes en Croatie où une série culte a été finement analysée.
Oui, vous avez peut-être reconnu ce ton sarcastique et massive attaque comme générique qui fait penser à des
battements de cœur. Parce qu'on parle ici de Dr House, la série médicale de la Fox, succès dans le monde entier, diffusée de 2004 à 2012. Je vous rappelle le pitch, le docteur Gregory House est à la tête du service diagnostic d'un hôpital américain. Avec son équipe, il résout le mystère d'une pathologie inexpliquée d'un patient à chaque épisode. Et bien cette série, trois médecins, trois neurologues croates en ont analysé chaque minute. Et il y a 177 épisodes pour guetter les incohérences, bien sûr, d'un point de vue strictement médical. Ils ont relevé 77 erreurs, précisément ces professeurs de l'université de Dubrovnik. Parmi les plus évidentes, l'utilisation d'un thermomètre au mercure, hein, ça n'existe plus depuis longtemps. Une injection unique pour guérir une carence en vitamine B12, ce n'est pas si simple que ça visiblement. Et la plus évidente, Dr House dans la série souffre d'une douleur chronique à la jambe, hein, il utilise une canne qu'il porte du mauvais côté au fur et à mesure des épisodes, parce que c'est plus efficace, visiblement, pour souligner son boitement, c'est ce que relèvent les chercheurs, qui soulignent que la multiplication d'articles scientifiques sur les séries comme le leur ces dernières années pousse les réalisateurs à être de plus en plus précis. J'ai cherché Dr House en croate, mais je n'ai pas trouvé. Je voulais vous faire plaisir.
Ben, tant pis, c'est pas grave. Ben, cherchez mieux la prochaine fois. Bon, en même temps, c'est pas terrible comme erreur. Hein.
Non, c'est vrai. Il y en a beaucoup. 77, ça fait beaucoup.
Allez, à demain, Kevin. Vous partez avec William Zivilaine, Anybody Gonna Move sur France Inter et dans Un Jour dans le Monde. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Stick around, baby, don't leave too soon. Cause you can stay with me for a couple more
trading dilated pupils turn green when he looks upon me and my white guitar. He said, Bill Dylan, you should drive off of a cliff in your car. When am I gonna find the time to breathe? Those silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed a car. It gets my blood boiling like a bucket of tar. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Well, stick around, baby, don't leave too soon.
William Z. Villaine, Anybody Gonna Move. Vous êtes dans Un Jour dans le Monde et le monde à 18h50. C'est Louise Baudet.
How dare you?
World has changed.
Fabienne Saint-Hess. Le 18-20.
Et Louise, aujourd'hui, c'est dans l'Indo-Pacifique que vous voulez nous emmener, région au cœur de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. L'Amérique trumpiste veut rassurer ses alliés asiatiques et vous nous expliquez pourquoi c'est tout sauf gagné.
Oui, l'Amérique est de retour et elle est là pour y rester. C'est le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, qui le dit. 35 minutes d'un discours tonitruant prononcé ce week-end devant le Shangri-La Dialogue de Singapour, plus grand forum sur la sécurité et la défense d'Asie. Cette région du monde est bien le théâtre prioritaire de l'Amérique trumpiste, qui confirme ainsi le pivot asiatique engagé il y a 15 ans par Barack Obama. Concrètement, cela veut dire que les États-Unis laissent la sécurité de l'Europe aux Européens pour se concentrer sur la région Indo-Pacifique face à une menace chinoise réelle et même imminente, selon Pete Hegseth. Pékin souhaite dominer la région et s'entraîne tous les jours en vue d'une invasion de Taïwan, a déclaré le ministre de la Défense, provoquant les dénégations et la colère de Pékin contre Washington, accusé de jouer avec le feu dans une mentalité de guerre froide.
Alors vous l'avez dit Louise, l'administration Trump est dans la continuité, mais qu'est-ce qui change ?
Eh bien c'est la contrepartie demandée. La dissuasion, ce n'est pas bon marché, a lancé Pete Hegseth, et les pays asiatiques amis de l'Amérique sont priés de passer à la caisse. Japon, Australie, Corée du Sud, tous peuvent et doivent augmenter rapidement leurs propres moyens de défense, de préférence au bénéfice de l'industrie militaire américaine, bien sûr, tout comme les Européens, présentés comme des exemples, une fois n'est pas coutume. De fait, certains, comme l'Allemagne, ont annoncé vouloir hausser leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB, et cet effort pour pallier le désengagement américain sera au cœur du sommet de l'OTAN prévu à la fin du mois.
Et alors, comment les pays asiatiques ont-ils réagi ?
Comme vous l'imaginez, avec circonspection, les dépenses militaires sont déjà en plein essor dans la région, région qui compte par ailleurs de nombreux pays en développement, dont le premier souci est de sortir de la pauvreté, pas de se lancer dans une course aux armements. Et puis, si les alliés traditionnels des États-Unis craignent, comme les Européens, d'être lâchés par l'Amérique trumpiste, beaucoup ont surtout peur de l'escalade avec Pékin. Et les déclarations musclées de Pete Hegseth n'ont pas de quoi les rassurer. Enfin, il y avait à la tribune Shangri-La un tabou ce week-end. La guerre des droits de douane qui n'épargne pas l'Indo-Pacifique. 49% pour le Cambodge, 46% pour le Vietnam. Ces surtaxes, certes temporairement ramenées à 10%, sont loin d'être oubliées. Terrain miné que Pete Hegseth a d'ailleurs soigneusement contourné, affirmant qu'il est venu à Singapour parler de chars, pas de droits de douane.
Et les pays asiatiques, lui, sont donc méfiants. Ils sont aussi courtisés par Pékin.
Oui, la Chine qui se pose en partenaire fiable et respectueux au rebours des diatribes trumpistes. Pékin mène une diplomatie de voisinage très active le long de ses nouvelles routes de la soie, désormais bien connues, mais aussi grâce à des coopérations en matière de semi-conducteurs, d'intelligence artificielle ou d'aéronautique. Xi Jinping était d'ailleurs en tournée dans la région le mois dernier, façon d'incarner un soft power abandonné par Donald Trump. Donald Trump dont les revirements constants sur l'Ukraine, le nucléaire iranien ou les tarifs douaniers sapent la crédibilité.
Louise Baudet, merci beaucoup et à demain. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait la planète en tournant, c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
En Afrique du Sud, Cyril, ce soir, avec l'histoire d'un chant anti-apartheid, revenu au cœur de l'actualité sous l'influence de Donald Trump et d'Elon Musk.
Et une fois de plus, ce chant guerrier intitulé « Kill the Boer » revient hanter la mémoire collective en Afrique du Sud. Depuis la fin de l'apartheid, l'utilisation politique de cette chanson, les controverses sur le sens de ces paroles ont souvent enflammé le débat dans la société sud-africaine. Mais cette fois, c'est Donald Trump qui a décidé de s'en saisir. Fin avril, lors d'un entretien dans le bureau ovale avec son homologue Cyril Ramaphosa, Trump s'empare d'une théorie véhiculée par l'extrême droite, les fermiers blancs d'Afrique du Sud seraient victimes d'un génocide.
Il y a des milliers d'histoires à ce sujet. Nous avons rassemblé des documentaires, des articles de presse. Montrez-nous les articles. Et s'il vous plaît, baissez les lumières et mettez la vidéo en route, c'est juste derrière vous.
Vidéo à l'appui en pleine conférence de presse à la Maison-Blanche, Trump confronte alors le président sud-africain à ses documents censés alimenter la thèse du génocide. Et on y voit notamment l'extrait d'un meeting de Julius Malema, le leader virulent de l'extrême-gauche en Afrique du Sud. C'était il y a quelques semaines. Malema reprenant « Kill the Boer » devant des milliers de sympathisants dans un stade.
« Kill the Boer, the farmer. Kill the Boer, the farmer. »
Tuer les bourgs, en anglais. Les bourgs, ce sont les descendants des colons européens d'Afrique du Sud. Le terme désigne aussi les fermiers afrikaners. 35 ans après la fin de l'apartheid, le fait est que ce chant né de la ségrégation réapparaît parfois dans les rassemblements politiques. Pour Donald Trump, qui reprend là un sujet particulièrement cher à Elon Musk, lui-même issu de la minorité blanche sud-africaine, ce chant n'est rien d'autre qu'un appel au meurtre. Trump demande donc à Ramaphosa l'arrestation pure et simple de Julius Malema.
Et alors pourtant, Cyril, l'utilisation de ce chant n'est pas proscrite en Afrique du Sud. La justice a tranché il y a quelques années.
C'était en 2022, décision de justice qui a mis fin à une quinzaine d'années de procédures devant toutes les instances du pays. Verdict, malgré ses paroles violentes, Kill the Boer fait partie de l'histoire de la lutte contre l'apartheid. Dans les années 80, alors que le régime approche de sa fin, la population noire en fait un hymne officieux et les militants de l'ANC vont jusqu'à le diffuser dans les écoles où les enfants noirs le reprennent en cœur et tape des pieds à l'unisson, comme dans cet extrait d'un reportage télévisé de 1990. signifie réellement Kildebourg? Quelle est la part de métaphore dans les paroles? Qui est visé? Les fermiers blancs? La minorité afrikaner? Ou bien le système de ségrégation raciale dans son ensemble? Le débat entre historiens n'est pas tranché. Toujours est-il que la chanson traîne dans son sillage une réputation sulfureuse. Rares sont les politiques qui s'en réclament aujourd'hui, mis à part Julius Malema, qui a déjà promis qu'il continuerait à la chanter. L'ANC, le parti au pouvoir, a de plus en plus de mal à l'assumer, d'autant qu'il gouverne en coalition avec le parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui réclame lui aussi l'interdiction de Kildebourg. Les artistes sud-africains, quant à eux, ne se bousculent pas pour réinterpréter ce chant devenu un peu honteux, ou alors ils le détournent et le déconstruisent, comme sur cette version électronique du DJ Félix Labande.
Sauvageau, merci beaucoup Cyril, vous revenez la semaine prochaine, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly, juste après il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, Philippe, ce soir, jour de livre inter, est-ce que vous aussi vous lisez moins et moins longtemps, et surtout est-ce que c'est grave docteur?
Olivier Cohen, le fondateur des éditions d'Olivier qui publie un perdant magnifique, livre inter 2025, le disait à 13h, il suffit de se rendre dans les librairies pour constater qu'il y a moins de monde. Nathalie, responsable jeunesse d'une médiathèque abonde en territoire rural. La baisse de la lecture est un véritable enjeu. Je m'inquiète pour les plus jeunes. Simon lit moins et le regrette. Lorsque je me laisse éloigner la lecture en cédant plus que d'habitude aux sirènes du scrolling et des jeux sur mon smartphone, mon moral en pâtit systématiquement.
01 45 24 7000 pour discuter avec nous. C'est le même chemin pour vos pouces par WhatsApp. À tout de suite.